Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, je suis ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Imo et Radio Territoria. Quelle belle manière de clôturer cette deuxième matinée du Salon CIMI. On va parler aujourd'hui d'urbanisation du système d'information de la promotion immobilière. Et alors, je suis bien accompagné en plateau. D'abord avec Xavier Pinault. Bonjour Xavier.
Bonjour, enchanté.
Vous êtes responsable du système d'information du groupe Gambetta.
Tout à fait.
On développera un petit peu après les activités du groupe Gambetta. Vous nous en direz quelques mots. Ensuite, Franck Laudet. Bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes directeur des systèmes d'information et du digital chez Atland. Pareil, vous nous direz, si vous voulez bien, quelques mots sur Atland. Adrien Chaussinan, bonjour Adrien.
Bonjour.
Vous êtes déjà venu sur notre radio. C'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes responsable innovation du réseau Procivis.
C'est correct.
Et Charles Goulet. Bonjour Charles.
Bonjour Grégoire.
Pareil, un habitué de la radio. Charles, vous êtes directeur des ventes de Salvia Développement. Alors messieurs, on va commencer peut-être avec vous, Xavier, un petit mot sur le groupe Gambetta et ses activités.
Oui, alors le groupe Gambetta, c'est d'abord une société coopérative. Donc nous, on a un petit peu plus de 100 ans maintenant. Et on est un acteur du monde du social et du solidaire. Voilà, donc c'est à peu près 130 personnes réparties sur 6 régions. On gère 5000 logements sociaux. On a construit un petit peu plus de 35000 logements. Voilà, donc pour le groupe Gambetta.
Et un groupe qui a, me semble-t-il, 94 ans d'existence, hein, si j'ai bonne
mémoire.
Oui,
si c'est un petit peu, c'est 1923,
ouais, hein, c'est ça, hein.
Donc
ouais, ouais.
Un petit peu plus que ça, c'est, voilà, ça passe.
Autre petit nouveau, Franck.
Oui, oui, oui.
Le Atland, groupe Atland.
Alors, Atland, c'est un acteur global coté qui intervient sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Ça représente à peu près 4,6 milliards d'actifs sous gestion à mi-juin. Mi-juin 2024, et ça intervient sur des sujets de gestion d'actifs et de gestion d'opérations de développement.
Régional de l'État, presque. Adrien, Procivis, si on peut dire quelques mots sur le groupe Procivis.
En une phrase, Procivis, c'est le premier réseau coopératif immobilier français. On fait de la transaction, de la promotion immobilière, des maisons individuelles. Nous sommes bailleurs social, nous gérons un parc de 70 000 lots. Et puis, activité du jour, on travaille aussi sur la data et c'est pour ça que je réponds à cette invitation favorablement aujourd'hui.
Ben, excellent. Et ben, celui qui nous invite tous autour de cette table, c'est vous Charles Goulet. Un petit mot sur Salvia.
Alors Salvia Développement, nous on est avant tout éditeur de logiciels, voilà, et on propose des solutions de gestion à la fois à destination des bailleurs sociaux, des collectivités locales. Et là aujourd'hui, on va essentiellement parler de notre offre à destination des promoteurs immobiliers.
Excellente transition, merci beaucoup Charles, parce qu'en fait on va parler d'urbanisation des systèmes d'information. Et avec une première question, qu'est-ce que l'urbanisation et en quoi est-ce qu'elle consiste ?
Alors, moi, j'aime bien vulgariser parce que je ne suis pas informaticien.
C'est une
très
bonne chose.
Je vais laisser la parole aux sachants. Mais pour faire simple et surtout pour les utilisateurs à la fin qui, chez nos clients, utilisent nos solutions, c'est justement au sein des différentes structures, différents logiciels qui répondent à différents besoins pour la gestion d'opérations, pour la commercialisation, pour la comptabilité et autres. Et tous ces outils, ils doivent communiquer pour justement faciliter la vie au quotidien des utilisateurs. Et à la fois en interne, c'est déjà un premier sujet, mais également potentiellement avec des partenaires externes, des commercialisateurs, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et autres. Et donc l'urbanisation du système d'information, ça va consister justement à faire dialoguer l'ensemble de ces solutions. Et c'est ce à quoi nous on s'attache au travers de notre solution Salvia Pilotage Opération.
Franck, comment ça se passe l'urbanisation ?
En fait, l'urbanisation, pour moi, ça consiste à rationaliser le système d'information et à l'organiser de manière à répondre aux objectifs de l'entreprise.
Ouais.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'urbanisation, ça véhicule d'autres dimensions comme l'architecture, les notions d'architecture technique ou applicative. Et ça fait un véritable outil d'échange avec les utilisateurs, ça c'est toujours intéressant. Ou aussi, c'est un outil pour se comparer avec d'autres entreprises, notamment dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition.
Ouais. L'urbanisation, elle est menée aussi dans le cadre dans une entreprise qui grandit après des acquisitions, après des fusions, c'est ça, Xavier ?
Oui, alors c'est exactement ça. Hein. Bon, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Hein. C'est surtout une démarche, c'est des méthodes, c'est une façon d'aborder en fait la façon dont on construit son système d'information. Il est rare qu'on ait un système d'information qui démarre de zéro, donc ouais. On a un héritage.
Oui, c'est ça. Les entreprises arrivent avec leur propre système.
Exactement. Donc, il faut le faire vivre, il faut le faire communiquer, il faut que ce soit logique. À l'instar de l'urbanisation d'une ville, voilà, on ne va pas monter 3 casernes de pompiers dans le même quartier. Bah, on va faire exactement la même chose avec les logiciels. Voilà, c'est le métier d'urbaniste et d'architecte des systèmes d'information.
Et Adrien, c'est important, quand on parle d'urbanisation, de ne pas faire table rase du passé.
C'est vrai, et en même temps, il faut accepter l'avenir.
Ouais.
Moi, en ce moment, je vois apparaître des centaines de petites applications qui ont toutes leurs API, qui sont capables de générer le petit service dont on a besoin pour aller chercher le client final, parce qu'il est volatile et qu'aujourd'hui, on a besoin de l'attraper en quelques secondes. On m'a dit qu'on acquérait un client plus facilement, 14 fois plus facilement, si on lui répondait dans les 5 minutes après sa sollicitation.
Ok.
Voilà. Bon, ben, aujourd'hui, il faut absolument avoir des bases lourdes, épaisse, qui permet de gérer de nombreux employés, des services qui doivent communiquer entre eux, et on doit plugger des plus petites applications sur lesquelles eh bien, on va aller chercher la vitesse. Et c'est exactement ça l'urbanisation, différentes vitesses dans une même ville qui doivent cohabiter. Et on va certainement parler de la solution SPO, mais en tout cas, on a de plus en plus d'acteurs et on doit absolument les connecter entre eux. C'est la nécessité de 2025, je dirais, du siècle.
Alors, comment est-ce qu'elle a été entamée, cette réflexion d'urbanisation chez Procivis, par exemple ?
Alors, elle a été assez complexe, puisque nous, on a donc 45 coopératives qui composent le réseau Procivis, et toutes ont des filiales de promotion, de maisons individuelles et autres activités. Donc, il a fallu un petit peu faire la cartographie de quels logiciels étaient utilisés, et où était l'information primordiale, celle ouais. sur laquelle les équipes, elles croient et elles travaillent. Parce que c'est celle-là qui m'intéresse, c'est celle que... au niveau central, on a besoin pour pouvoir avancer. Alors, au début, on la collectait manuellement. On demandait à des contrôleurs de gestion, chaque mois, de nous donner cette donnée et ils la retraitaient pour nous la donner conformément à notre besoin.
Okay.
Aujourd'hui...
Donc ça, c'est une petite perte de temps quand même, hein. C'est fastidieux.
Franchement, c'est des heures et des heures qui ont été consacrées à ça, qui ont permis au réseau de se consolider, de se connaître, j'ai envie de dire. Même.
Ouais.
Mais aujourd'hui, ce travail, il est tellement fastidieux et il demande... tellement de gestion de complexité qu'on en est à travailler avec les outils directement, aller chercher l'information au bon endroit et la retraiter nous-mêmes, parce que ce travail, en fait, il est plutôt à faire par nous que par nos sociétés ouais. qui, elles, sont sur le terrain et ont besoin d'agir.
Charles, vous commentez, hein, si vous voulez.
Alors, très intéressant, parce qu'effectivement, nous, on équipe à peu près 300 promoteurs immobiliers et on est très présent au sein du réseau Procivis. Alors, j'ai regardé mes petits chiffres avant quand même l'interview, mais on accompagne 25, effectivement, membres du réseau.
Okay.
Pour certains, ça fait depuis le début des années 2000. Donc, il y a vraiment un historique qui est très important. Alors, on les accompagnait avec GR Immo, et maintenant, pour la plupart, avec la nouvelle solution Savia Pilotage Opération. Et effectivement, un des points, alors ça existait déjà sur GR Immo, cette problématique de consolidation d'informations au niveau du réseau. Et l'objectif, c'était, pour faire simple, hein, d'extraire la donnée facilement ouais. de nos logiciels, pour les remonter au réseau. Vraiment, et le besoin est toujours le même. Sauf que maintenant, avec nos nouvelles solutions, en particulier SPO, eh bien, on met à disposition des API et le service, on va dire, innovation du réseau est capable justement d'aller rechercher pour les membres qui l'acceptent, bien sûr, d'aller chercher les données, de les agréger, de les mettre en forme. Alors, à un but, évidemment, qui est très lié au réseau. Ouais. Mais ça, c'est effectivement un gain de temps et un gain de productivité
ouais,
qui est énorme.
Ouais. Oui, avant, c'était un peu tout le monde le faisait à sa sauce. Et là, maintenant, grâce à votre solution, au moins, c'est harmonisé.
Absolument, c'est tout à fait ça.
Xavier, comment ça se passe dans le groupe Gambetta ?
Dans le groupe Gambetta, c'est arrivé avec la digitalisation des processus. Donc, on a une grosse vague de digitalisation qui a amené beaucoup de logiciels.
Okay.
La problématique, c'est d'arriver à les faire communiquer ensemble, ouais. D'arriver à avoir une logique, que l'information se retrouve au bon endroit, qu'elle ne soit pas... dispersé ou alors doublonné, ce qui est encore pire, et pour les gens qui exploitent la data ensuite derrière. Donc c'est par là que c'est arrivé, et puis on a essayé de réfléchir avec cette arrivée de comment on va faire pour organiser tout ça. Donc,
ouais.
Et on a entrepris une démarche d'urbanisation à partir de ça.
Donc en fait, c'est vraiment s'organiser en interne.
Oui, le maître mot, c'est ça. Hein. C'est une démarche d'organisation avant tout, pour s'assurer qu'on ne se perde pas dans l'arrivée de tous ces logiciels. Voilà, donc nous, c'est le gros du travail a été là, on va dire.
D'accord. Charles, vous voulez commenter aussi ?
Alors, enfin, nous, on appuie bien sûr tout à fait cette démarche. Nous, on rend juste des services. Notre outil, il est là pour rendre des services. Donc, à partir du moment où, effectivement, la DSI nous dit, bon, ben, il faut que notre solution, non seulement elle réponde aux besoins, mais en plus, elle communique avec l'outil de dématérialisation de facture, avec l'outil de CRM ou avec l'outil ProCivis, on les accompagne et on met à disposition la technologie qui permet de faire ça facilement.
Et en fait, après, faut à chaque fois s'adapter à un environnement, un écosystème qui est bien particulier, parce que chaque organisation a son environnement. On va interroger Franck après sur la sienne, mais chacun a ses problématiques qui lui sont propres.
Alors, 300 promoteurs, globalement...
300 problématiques.
Voilà, 300 problématiques. Alors, heureusement, nous, pour notre part, donc il y a quand même le noyau central,
oui,
de l'application de gestion.
Commun,
voilà. Mais après, en termes d'outils qui vont communiquer avec la solution, encore une fois, les outils de démat, de CRM, de comptabilité ou autre, là, pour le coup, on échange avec énormément d'éditeurs. Ouais. Et c'est appréciable, depuis qu'on a redéveloppé notre solution, de pouvoir le faire encore une fois facilement. Alors moi, effectivement, travaillant dans l'informatique depuis assez longtemps, les interfaces, c'est jamais rigolo, ouais, en informatique. Là, pour le coup, il y a un long passé, voire même un passif dans certains cas de figure. Mais là, depuis qu'on a changé de technologie, avec en particulier l'approche via API, eh bien, on simplifie énormément la chose, à la fois pour nous, ça c'est important, mais surtout après pour nos clients et nos partenaires.
Franck, comment ça s'est passé chez Atland ?
Alors, en fait, moi je suis arrivé consécutivement à plusieurs rachats.
Ok.
Donc il y avait besoin d'organiser. Alors, on parlait d'organisation tout à l'heure, c'est exactement ça en fait. Il faut bien comprendre comment l'existant pour pouvoir l'organiser.
C'est ça.
Et le faire évoluer, c'est clair.
Ouais, donc vous êtes arrivé déjà dans un environnement qui avait bougé. Et en fait, on vous a dit, Franck, voilà l'environnement. Maintenant, il faut organiser tout ça.
Oui. Alors, pour le coup, les outils de Salvia étaient déjà présents dans le groupe. On se disait tout à l'heure avec Charles que je crois qu'Atland, ou via les filiales rachetées, est présent dans le groupe depuis 2008, je crois.
2008,
c'est ça,
ouais,
Charles.
Tout à fait, c'est ça.
Donc, il y avait déjà un existant, mais moi, quand je suis arrivé, il y avait deux versions, deux outils, deux fois les mêmes produits.
D'accord.
Donc, voilà.
Okay. Donc, il faut rationaliser.
Ouais,
exactement. En fait, Franck, est-ce que c'est important, quand on veut mener à bien un projet d'urbanisation, de faire déjà une analyse de l'existant, de voir d'où on part ?
Non. Je pense que c'est vraiment la première étape à avoir. Alors, moi, j'aime bien dessiner. Je dessine très mal, mais j'aime bien
mettre
dessiner.
À plat.
Fort. Voilà, ça permet de se rendre compte de quelles sont les applications qui sont dans la place, quelles sont les fonctions couvertes ou celles qui ne sont pas aussi, quel métier utilise quelle appli ou quelle fonction. Et ça permet aussi de voir comment les informations circulent entre les différents éléments du système d'information. Donc derrière, ça amène le sujet des interfaces, de la circulation de la donnée. Et tout ça sur un dessin, mine de rien, on s'en rend compte.
Ouais.
On se rend compte aussi des données qui sont saisies plusieurs fois. On va saisir plusieurs fois la même chose dans différents systèmes parce que c'est pas interfacé. Donc on essaie de lutter contre ça. Donc il y a vraiment cet état des lieux. C'est marrant parce qu'on emploie beaucoup de termes d'immobilier dans l'informatique. On parle d'état des lieux, on a parlé d'architecture.
Ah ouais,
c'est toujours
c'est de l'immobilier informatique.
Exactement.
Ouais.
C'est vraiment ça.
J'ai l'impression que c'est une galaxie, c'est tentaculaire et il faut faire en sorte que tout soit connecté. C'est ça, Xavier ?
C'est ça, tout à fait. Le maître mot, c'est la connexion. Les logiciels seuls, avant, étaient en capacité de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a une myriade de logiciels qui sont arrivés sur le marché, sans parler de l'arrivée du cloud, qui est venu un petit peu perturber tout ça. Et entre un legacy et un...
Le cloud, voilà. Parce que tout le monde n'est pas connecté au même cloud.
Non, il existe plusieurs clouds. Donc, entre ces applications qu'on possède chez soi, pardonnez-moi l'anglicisme, et effectivement le cloud, à un moment donné, il faut aussi faire communiquer tout ça. Donc il faut bien se connaître, je suis tout à fait d'accord. Il faut savoir qui on est, comment on communique. Et je dirais qu'il y a aussi une dimension supplémentaire qui est venue se rajouter, c'est la sécurité qui est par-dessus.
Oui,
la sécurité de l'échange de l'information, de la qualité de l'information derrière. Donc ça, ce sont des enjeux que la cartographie doit arriver à nous aider à résoudre, puisque nativement, c'est pas simple pour... Un être humain de comprendre cette myriade, cet écosystème.
Vous aussi, vous avez mené en interne une cartographie de l'existant ?
Oui, on fait la même chose, on dessine très mal et on le fait. Et puis après, on passe sur PowerPoint. Et puis un jour, quand on est bien mature, on achète un logiciel qui le fait aussi. Ça fait un logiciel de plus, mais voilà, c'est comme ça.
Oui, Adrien, comment ça s'est passé chez vous ? Pareil, la cartographie, elle est importante.
C'est encore un mot de l'univers de l'urbanisme, hein, ouais. La cartographie. Effectivement, il est utile à plusieurs échelons. Hein. La cartographie, la première, je dirais, c'est déjà de connaître les logiciels qui composent son écosystème et le support sur lequel on va les faire fonctionner. Et puis après, il y a la donnée qui circule à l'intérieur, les intelligences qui vont gérer ces données pour en faire des actions ou des objets divers. Et puis en ce moment, il y a un gros sujet, c'est, bon, genre, je l'ouvre un tout petit peu, la thématique, c'est la donnée personnelle qui circule un peu partout, qui se réplique justement, dont on a chacun besoin pour différents aspects. Et aujourd'hui, c'est un énorme enjeu, parce que quand notre client nous dit « je veux que vous retiriez mes données personnelles de votre parc informatique, avec vos partenaires que vous utilisez peut-être des fois à l'extérieur », c'est extrêmement dur. Si on n'a pas cartographié, c'est presque impossible de retirer à 100%.
Oui, de savoir où est-ce que la donnée est allée se nicher.
Donc ça, c'est un enjeu. Et puis, effectivement, une fois qu'on a cartographié ça, nous, on s'est appliqué à faire du 80-20. Vous connaissez, on travaille sur 20%, ce qui est 80% de plus productif. Et donc, on s'est tout de suite retourné vers SPO en disant, écoutez, j'ai l'impression que nos membres utilisent énormément votre solution. Est-ce que vous avez la possibilité d'une ouverture standardisée de vos données pour que nous on puisse faire des appels et réfléchir avec ces données différemment que ce que font les promoteurs actuels, parce que les promoteurs ils l'utilisent pour savoir l'avancement de trésorerie, faire des plans d'avancement de leurs travaux. Nous chez Procivis on en a besoin pour d'autres choses, pour pouvoir faire des rendus auprès de l'État, auprès de l'USH, de différentes instances, de leur dire notre avancement en termes d'accession à la propriété, quel type on vend, des BRS, des PSLA, voilà, des choses qui n'est pas forcément l'intérêt premier pour des promoteurs. Donc on a fait cette cartographie, on a commencé à connecter des logiciels, on le fait très bien avec SPO, et désormais on a tout un écosystème qui est en train de vivre et qui bat au rythme des avancements de nos promoteurs.
Charles, est-ce que je vous demande un petit commentaire et après je voudrais vous interroger sur la sécurité, l'aspect qu'a évoqué Xavier, et après Franck, pareil sur cet aspect sécuritaire, parce que je vous ai vu hocher de la tête doublement sur cet aspect sécuritaire.
Voilà. Alors nous, en tant qu'éditeurs, en fait, pour répondre à tout ce qui a été évoqué, il y a deux éléments à vraiment à prendre en compte. Il y a d'une part la technologie de l'outil. Ouais. C'est vrai que parce que communiquer, c'est super, là, il n'y a aucun problème. Mais après, il faut que l'outil le permette nativement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une technologie qui soit ouverte. Alors, au-delà de l'aspect politique de l'éditeur, se dire « oui, je veux communiquer avec les autres », c'est déjà un premier aspect, mais là, ça a toujours été le cas chez Salvia. Mais il faut quand même que l'outil, techniquement, le permette. Donc ça, c'est vraiment en interne, le développement, etc. Et puis après, c'est tout simplement être à l'écoute de nos clients, parce que nous, on ne peut pas tout imaginer. On imagine quand même plein de choses, parce qu'on on a une bonne expérience sur le métier. Mais effectivement, ce qu'on avait, le cas classique chez nos clients de faire, encore une fois, communiquer avec les outils de commercialisation et autres, ça, c'est du traditionnel. Il y avait des demandes qui existaient depuis longtemps, donc maintenant, on les accompagne de manière tout à fait efficace. Mais ce sur quoi on a travaillé, justement, avec Procivis, ça, c'était vraiment une dimension nouvelle. Qu'on pouvait anticiper, alors qu'on avait anticipé, on va dire, à l'échelle d'un promoteur, mais qu'on n'avait pas du tout anticipé à l'échelle d'un réseau. Et le fait d'avoir en arrière-plan l'outil qui permet justement l'ouverture a fait que, justement, le passage à l'étape d'après, à savoir, OK, on met en place l'architecture qui va bien pour répondre aux besoins d'un réseau, ça a été possible. Et ça, c'est honnêtement très satisfaisant pour nous, parce que on travaille beaucoup en R&D, etc. C'est jamais évident. Et derrière, d'avoir des applications pratiques comme ça pour répondre, je dirais pas à l'instant T aux besoins du client, mais il faut quand même le mettre en place. Mais néanmoins, on y arrive.
Ouais, c'est créatif.
Ah ouais, tout à fait. Et y compris pour les équipes techniques, qui travaillent vraiment beaucoup là-dessus.
Alors sur l'aspect sécuritaire. J'ai l'impression que quand même la sécurisation de la donnée, une fois qu'on a fait cette urbanisation, c'est un paramètre qui est très important aussi.
Alors là, je dirais que c'est vrai que c'est l'évolution aussi du marché en général.
Oui.
Jusqu'à il y a ces dernières années, on était quand même plutôt sur des configurations qu'on appelait on-premise, donc c'était installé chez le client. Et chaque client gérait sa sécurité avec ses possibilités, ses contraintes, ses budgets aussi.
Ouais. Mais c'est lui qui était responsable de sa propre sécurité.
Exactement. Alors nous, on mettait en place des solutions, on va dire, sécurisées, mais après, c'était quand même le réseau du client. Ouais. On ne pouvait pas y faire grand-chose s'il y avait eu une problématique quelconque. Là, l'évolution du marché fait qu'aujourd'hui, on est effectivement sur des solutions cloud. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Surtout que nous, on travaille avec les promoteurs, c'est très bien, mais on travaille aussi avec des bailleurs sociaux, on travaille aussi avec des collectivités locales, donc il y a plein de problématiques et d'exigences de sécurité qui sont prises en compte pour justement proposer des plateformes qui répondent à toutes les normes, les contraintes réglementaires et autres pour justement faire en sorte que bah, les systèmes soient robustes, redondants, que les bases de données soient cryptées. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui sont pris en compte. Ouais. Et il y a régulièrement d'ailleurs des audits de prestataires divers et variés qui... j'allais dire qu'ils nous félicitent, mais enfin, en tout cas qui font des audits très positifs sur les architectures qu'on met en place. Et ça, c'est valable pour nous, tous nos clients, que ce soit des petits clients, des moyens clients, des gros clients. Voilà, on met en place des solutions justement qui répondent à leurs contraintes de sécurité.
Et en tout cas, c'est une donnée, un paramètre que vous avez dû intégrer maintenant vous dans votre
approche. C'est obligatoire. Ouais. De toute façon, c'est une des premières questions, par exemple, en avant-vente, parce que faut bien voir que, par exemple, un promoteur qui vient souvent d'Excel, lui, il dit, ok, je vais mettre ma donnée, mes bilans, mes clients, mon interface comptable, ma facturation, sur un cloud. Donc, si vous ne le rassurez pas sur cet aspect sécurité, de toute façon, vous n'allez pas plus loin. Ça. Donc là, c'est vraiment un prérequis indispensable.
Messieurs, vous intervenez, si vous le souhaitez. Franck, sur cet aspect sécuritaire, je vous ai vu doublement hocher de la tête.
Oui, parce qu'en fait, il y a deux sujets, je pense. Ouais. Il y a à la fois la sécurité, c'est une chose, et il y a la conformité à la RGPD, par exemple. La conformité, c'est un combat quotidien. La sécurité, c'est un combat vraiment, vraiment quotidien. Il y a kyriel d'outils à mettre en place. Il y a de la sensibilisation quotidienne à faire auprès des utilisateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on disait que il y a plusieurs choses. Il y a à la fois les architectures systèmes qui ont évolué au fil des années, aujourd'hui qui mélangent du on-prem et du cloud en permanence et tout ça doit communiquer.
Oui.
Et puis, vous avez aussi la cybercriminalité qui a explosé.
Ah bah, qui a fait un bond en avant.
Exponentiel.
Et même dans ses capacités.
Donc on est tous attaqués tous les jours.
Ouais. C'est ça.
Et le sujet, il n'est pas tellement de savoir si on va être attaqué, c'est quand.
Oui.
En fait, c'est quand on va être attaqué.
Surtout. Et à quel point on va être impacté.
Et quelle sera notre capacité à redémarrer. Ouais. Et ça, ce sont vraiment des sujets qui sont importants. Alors, il y a des cyberassureurs qui viennent pour assurer ça, justement, et qui vous demandent de protéger vos données, souvent qu'elles soient double protégées, et puis qu'il y ait une copie immuable des données pour que, au cas où vous êtes attaqué, que la copie est attaquée, que vous ayez quand même une copie qui soit propre. Pour recharger. Donc tout ça, c'est compliqué. Puis après, il y a l'aspect conformité, qui est un sujet assez compliqué aussi, parce qu'effectivement, quand un client vous demande d'effacer ses données, on va dire que tout ce qui est données organisées, c'est assez facile à trouver. C'est dans des bases de données, c'est organisé. Tout ce qui est données non structurées, un justificatif qui traîne sur un serveur de fichiers, des choses comme ça, c'est très compliqué. Je parle même pas de ce qui a pu être sauvegardé au fil des mois et des années. Donc c'est vraiment des sujets compliqués dont qu'on peut pas du tout écarter, occulter aujourd'hui.
Adrien.
Pour moi, la sécurité, j'ai à la fois énormément de. Je comprends l'importance et en même temps, il y a quand même des moments où on donne notre donnée parce qu'on a besoin d'un service, parce que c'est l'échange qu'on fait avec l'outil qu'on utilise. Et au final, on consent à quand même partager cette donnée en échange de ce service. Quoi. Donc, on a évidemment en interne chez ProCivis deux personnes dédiées à tous les sujets juridiques pour que déjà on soit protégé contractuellement avec nos prestataires sur un certain nombre de sujets, notamment la sécurité. Ça fait partie des petites lignes dans le contrat. Et on a regardé celle de Sadia quand on a travaillé avec vos API. D'ailleurs, on a fait un contrat tripartite qui était important au moment où on a ouvert les données de nos partenaires. Et puis, donc après, voilà, sur la sécurité, évidemment, personne n'est infaillible. Même Facebook et les plus grandes sociétés ont été hackées parfois. Le but, effectivement, c'est de ne pas couper le service. Moi, j'ai travaillé chez Bouygues. On a eu un gros enjeu à une époque. Les serveurs ont été coupés et non redémarrés pendant plus de 2 mois, je crois. Vous imaginez le chiffre d'affaires que ça représente quand les équipes ne peuvent plus utiliser leurs outils pour communiquer avec leurs clients, pour utiliser leurs plans sur site. Enfin, vraiment, c'était la cata. Donc, voilà, mesure, pareil, comme d'habitude, risque et plan d'action en cas d'attaque. Et puis après, on fait au mieux.
Xavier ?
Oui, on va revenir un petit peu sur la cartographie. C'est intéressant ce sujet. On voit à quel point une cartographie, on peut croire que c'est figé. Allez, on a mis un ERP, on a mis ses solutions, son CRM, et ça ne bouge pas. C'est faux. Ça, c'est un très bon exemple. Le jour où on fait de la cybersécurité dans un système d'information, on va encore ajouter des briques. Ça va bouger, ça complexifie. Sécuriser, c'est pas toujours simple pour les équipes, pour les utilisateurs. Donc voilà, on voit que si on tient pas une cartographie, sécuriser quoi, où, quoi, comment,
et qu'est-ce qu'on vitesse.
Met, voilà, à quel endroit. Donc c'est un sujet intéressant si on le rapporte à la cartographie, à son évolution, et à la nécessité d'être en permanence l'œil dessus.
En fait, la cartographie, une fois qu'on l'a faite, elle n'est pas du tout mise de côté, elle nous sert de base de travail sur tout le projet en fait.
Tout à fait. C'est le cycle de vie du système d'information. Voilà, et c'est sa carte d'identité de son cycle de vie.
Bon, alors Xavier, je reste avec vous. Une fois qu'on a urbanisé son système, qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça a permis chez vous ?
Alors, on en parlait juste avant, on passe son temps à ajouter, à supprimer des éléments. Ce que ça a permis d'abord, c'est, avant de faire des investissements, de se poser des bonnes questions. D'abord, est-ce qu'on n'a pas déjà la donnée ? Est-ce qu'on n'a pas déjà un bout de logiciel qui fait ça ? Si on le met, à quel endroit on le met, comment on va le faire communiquer, et on évite d'arriver avec des solutions et de se perdre dans un projet qui ne va jamais terminer, comme ça peut arriver, et parce qu'on n'a pas bien mesuré comment ça allait s'intégrer dans un système d'information.
Et parce que le constat de départ n'était pas le bon ?
Oui, et puis une solution, c'est toujours intéressant, beau au départ. Maintenant, ça doit s'intégrer dans un écosystème. Ouais. Donc nous, ça nous a permis de nous poser, de se poser des questions, de rationaliser énormément aussi. Parfois, on ne fait pas que rajouter, on en enlève. Parce qu'une nouvelle fonctionnalité dans un ERP, ça va peut-être aller tuer une petite application quelque part. Mais ça, pour le savoir, il faut avoir cette cartographie. Donc nous, c'est vraiment ce cycle de vie, cette capacité à avoir cette vision moyen et long terme de comment on va évoluer, par où ça va passer, comment ça va s'interconnecter. Voilà, les grands bénéfices sont là. Il y en a un autre qui est important, je tiens à le préciser, c'est, je pense que ça rassure aussi les comités de direction de savoir que les DSI, quelque part,
ils maîtrisent,
ils ont des écrits, ils savent où ils vont. Et c'est assez simple avec ces petits schémas d'aller expliquer des choses qui sont complexes, parce qu'on est en train de masquer une complexité technique qui est très très importante. Donc même pour nous, on en a besoin de simplifier au plus haut niveau. Donc ça, cette valeur, c'est de pouvoir le partager avec les comités de direction et de dire, vous voyez, on maîtrise.
Je rebondis parce qu'il y a quand même un petit point sur lequel le réseau me sollicite régulièrement. Ils me disent, Adrien, nous n'avons pas la compétence de chefferie de projet dans le déploiement d'un logiciel. Et ça, je pense que Charles va rebondir en disant, mais oui, c'est vrai qu'on a du mal des fois quand on est face à des promoteurs de plus petite taille, évidemment, qu'Atlan ou Gambetta, on a du mal à trouver un interlocuteur qui est capable de porter le projet dans la durée. Donc quelqu'un qui a pris un peu de recul, qui justement a cartographié, dit, OK, on prend Salvia... SPO ou autre outil, et on va l'intégrer dans notre écosystème de logiciels, et ensuite ça va impacter qui concrètement, c'est quel utilisateur va faire quoi. Juste, je donne un exemple très simple, celui qui va donner les licences utilisateurs aux autres.
Qui c'est
le responsable de programme, le directeur de programme, mais lui c'est pas du tout son job. Lui il va avoir des maires, il collecte des infos sur des terrains, mais il fait pas ça. Et donc du coup voilà, cette petite cartographie permet aussi de donner des responsabilités dans l'entreprise.
Et d'identifier une équipe projet.
Exactement.
Franck ? Pardon ?
Alors, là, pour le coup, je me permets effectivement de rebondir. C'est vrai que ça dépend beaucoup, beaucoup de la taille de la structure.
Ouais.
C'est vrai que...
plus la boîte est grosse, plus c'est facile d'avoir une équipe projet.
Voilà, et c'est vrai que quand il y a une équipe informatique, on va dire, structurée, qui connaît effectivement le sujet, c'est quand même beaucoup plus simple. Mmais c'est un peu la loi du 80-20, c'est-à-dire que ça correspond à 20% de nos clients. C'est-à-dire que 80%, il n'y a pas de service informatique. Alors, c'est vrai que les outils, justement, maintenant, qui sont dans le cloud et qui ont été redéveloppés de manière quand même plus user-friendly, fait en sorte que l'administration, justement, l'évolution des paramétrages est quand même, heureusement, beaucoup plus simple qu'auparavant. Mais c'est vrai que nous, on est là pour accompagner nos clients.
Il y a quand même un travail de pédagogie à faire auprès de vos clients.
Alors, de toute façon, oui, mais le travail de pédagogie, on le fait lors du déploiement, mais après, il y a du turnover, il y a plein de personnes qui partent, qui s'en vont, etc. La période est un peu propice, d'ailleurs, au sujet. Mais toujours est-il que, à partir du moment où vous avez quand même un outil qui répond au process au quotidien, il va être utilisé. Et si vous avez justement besoin d'un accompagnement, l'éditeur, lui, on a des équipes, on a de l'assistance qui va au quotidien, encore une fois, faire en sorte de faire fonctionner l'outil et répondre aux besoins, alors à la fois en interne et puis après pour continuer avec les interfaces. Quand on parlait de la mise en place des interfaces, encore une fois, chez un client de taille, encore une fois, où il y a 5-10 personnes, On ne va jamais solliciter un utilisateur responsable de programme pour communiquer entre un ERP et un logiciel de CRM. C'est juste impossible. Autant on va bien identifier les flux, c'est la fameuse cartographie. Par contre, après, c'est au job de l'éditeur de faire en sorte que ça fonctionne tout seul.
Bon, alors Franck, tout à l'heure, j'ai dit, plus la structure est grosse, plus c'est facile d'avoir une équipe projet en interne. Mais j'ai dit une bêtise.
Non, pas vraiment, mais...
Facile que ça.
Non, c'est pas si facile de constituer une équipe. C'est quand on met en place un outil comme SPO, par exemple, ouais. C'est quand même des outils qui vont être utilisés au quotidien par les utilisateurs. Ouais. Et c'est très difficile de sortir un utilisateur de son quotidien dans une durée suffisamment longue. Donc souvent, on a besoin... Alors, il y a l'apport de l'éditeur qui est indéniable.
Oui, c'est ce que nous
mais il y a aussi besoin de consulting externe, de gens qui sont un peu spécialisés dans le sujet. Il y en a pas beaucoup. On doit tous les connaître autour de la table, à peu près. Mais il y a certaines personnes qui sont capables, justement, d'accompagner ce type de projet et de fluidifier...
Et de faire la transition en interne.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment un sujet de conduite du changement assez fort, mais... Mettre en place un nouveau logiciel, ça prend rarement le pas sur le quotidien, sur l'opérationnel. Ouais. Donc il faut quand même des aides d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour s'en sortir. Ouais.
Et comment ça s'est passé chez Atland, une fois que l'urbanisation a été menée à bien, qu'est-ce que ça vous a permis de faire?
Alors, c'est jamais un sujet terminé.
Hein. Non,
on a bien
ça,
compris.
Ça vit dans le temps. Hein.
ça vit dans le temps. Je pense que... Une fois que l'urbanisation est faite ou avancée, on sait à peu près où sont rangées les choses, basiquement. Et ça permet de construire un peu plus. Ça permet de travailler mieux aussi, ça permet d'être plus efficace, peut-être de se concentrer sur les tâches à plus grande valeur ajoutée, mais ça permet de construire, je pense par exemple chez nous, à la data, au sujet de la donnée. Une fois que vous savez où est votre donnée, vous pouvez la collecter. Ouais. Et vous pouvez commencer à mettre en place des outils d'analyse, de reporting, de tableau de bord, avoir des outils de pilotage un peu plus évolués. Et puis surtout, si on va un cran au-delà, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle,
ouais.
Et l'intelligence artificielle sans la data, ça ne marche pas. Donc on
Exactement.
A intelligence artificielle, data, urbanisation, enfin, tout ça c'est lié, c'est un empilement de couches, et l'urbanisation va dans ce sens-là.
Et un jour, il va falloir imbriquer l'intelligence artificielle dans l'urbanisation.
C'est ça. Mais tout le monde y travaille. Moment,
j'imagine. Alors, comment est-ce qu'on peut établir, selon votre expérience, un plan d'action le plus efficace possible? Charles, comment est-ce que vous conseillez à vos clients ce plan d'action efficace?
Vous voulez dire au-delà de prendre notre logiciel?
Oui, tout à fait. Une fois qu'on a choisi le logiciel de Salvia.
Alors, concrètement, effectivement... Avant de choisir le logiciel, quand même, c'est quelque chose d'important, comme l'a dit Franck, c'est vraiment de faire cette cartographie des besoins utilisateurs, de ce qu'ils veulent utiliser, faire communiquer, etc. Donc, de toute façon, nous, quand on a effectivement des appels d'offres ou des sollicitations, on va toujours s'inscrire dans un souhait du client, un souhait d'organisation. Et alors, c'est souvent fait en amont, il faut reconnaître, soit en interne, soit avec le service informatique, soit un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et on va d'abord répondre à un besoin. Donc c'est vrai que nous, certes, on va dire oui, ça c'est très bien ou ça c'est pas possible éventuellement dans certains cas de figure. Mais on intervient plutôt en deuxième ligne par rapport à ce besoin qui a été exprimé. Sauf dans certains cas de figure où là, pour le coup, le client, je vais pas dire qu'il part de rien et il nous délègue l'ensemble de la mission. Et là, bah, effectivement, nous, alors, on a quand même un outil qui est très structurant, qui va répondre à énormément de process métiers. Et on va lui proposer, puisqu'on a une offre assez modulaire, justement, de mettre en place par brique les différents outils, les différents modules qui vont répondre progressivement à l'ensemble de ses besoins qu'il aura cartographiés.
Comment est-ce qu'on fait ?
On travaille avec les équipes. Ça paraît simple à dire, mais c'est énorme. D'abord parce qu'il y a un bout de savoir qui est dans le cerveau d'à peu près toutes les personnes qui se préparent. Alors moi, je ne travaille que dans des endroits où il y a des services informatiques, évidemment, de ma fonction. Donc, ce sont les équipes qui détiennent le savoir, qui sont en capacité de comprendre, d'expliquer comment c'est fait, de combler des documentations qui n'ont pas pu être faites pendant toute l'histoire d'un système d'information. On est obligé d'embarquer toute l'entreprise. On commence avec l'équipe, on commence avec les sachants des métiers, on s'adosse de personnes spécialisées dans le domaine aussi, il y en a qui le font très bien, qui sont capables de faire des missions d'assistance de maîtrise d'ouvrage aussi sur la cartographie, hein, ça existe tout à fait. Et puis on travaille avec ses partenaires externes aussi, ses fournisseurs, qui eux aussi ont un avis de comment ils fonctionnent bien chez les autres, parce que on détient pas le savoir, on n'est pas unique, on a parfois des métiers communs, donc une bonne idée faite chez un autre, ça peut être reproduit chez nous. Donc voilà, donc c'est par un partage de connaissances, de savoirs, d'idées, et puis à un moment donné, faut s'arrêter, puis il faut factualiser tout ça et avancer, et puis faire ça par itération, régulièrement.
Adrien ? Puisque vous avez proposé le nom d'urbanisation des systèmes d'information, moi je vous propose le développement durable des systèmes d'information, la deuxième étape qu'on voit ici aujourd'hui au CIMI. Pour moi, si ces logiciels, on les a poussés à être plus ouverts et être en capacité de partager leurs données, désormais ça me donne envie de poser des questions à ces logiciels ou à faire des requêtes dans ces API plus intelligente pour aller au-delà des métiers actuels, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de la donnée d'un programme qui est bâti à tel endroit avec tel matériau, est-ce que je ne peux pas partager cette donnée avec un centre qui produit du béton bas carbone, avec de la récupération de certains objets de la vie courante qu'on pourrait réinstaller dans des nouveaux bâtiments. Je pense qu'il faut la mettre au service de l'objectif de nos sociétés. Aujourd'hui, c'est le développement durable et je pense qu'on peut arriver à ces nouveaux sujets grâce à cette urbanisation de l'information.
Donc ça, c'est aussi faire en sorte que cette urbanisation, elle perdure dans le temps, elle soit pérenne et que ce ne soit pas juste un coup lancé une fois et basta, quoi.
Et c'est aussi l'objectif du développement durable, hein. C'est sûr qu'une ville, elle doit se bâtir et elle doit perdurer dans le temps. Fluctuact nec mergitur, ça me semble.
Pour appeler ça quelque chose trop compliqué. Là, pour voilà.
Non, mais en tout cas, pour en dehors de cette petite blague, non, effectivement, le développement durable des systèmes d'information, c'est effectivement d'avoir des solutions pérennes, solides, qui sont adaptables, qui sont bâties pour moi, cette adaptabilité, c'est sa possibilité de durer dans le temps, parce qu'elle va être capable de communiquer avec des nouveaux outils autour d'elle, parce que le besoin va changer. Et ça, c'est une certitude. Donc nous, on s'équipe avec des partenaires fiables, durables, des contrats justes, équilibrés, qui font des relations commerciales de bonne qualité, comme avec Salvia. Mais je pourrais citer aussi d'autres partenaires, évidemment. Et puis dernière chose, on fait attention désormais à cette rationalisation de la donnée pour qu'elle soit pas partout, mais qu'elle soit bien cartographiée, juste à disposition pour l'intelligence artificielle, pour en faire des nouvelles choses demain.
Franck, je me tourne vers vous pour la faire perdurer, cette urbanisation.
Non. Je pense qu'il faut faire attention aux outils que l'on choisit comme socle qui vont supporter le système d'information et sur lequel on va construire. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir d'outils qui ne communiquent avec personne. Il y en a encore, évidemment, mais c'est une des raisons de l'évolution des outils chez Salvia aussi. Hein, c'est de les rendre beaucoup plus communicants qu'ils n'étaient, de rendre leurs données beaucoup plus accessibles. Donc c'est vraiment le sujet. C'est des outils solides qui peuvent communiquer avec l'extérieur. L'extérieur étant soit d'autres applications, soit vraiment le monde extérieur. Et puis il y a peut-être un volet qu'on n'a pas abordé, qui me semble important aussi, c'est la couche d'en dessous, sous les outils, les couches d'infrastructure. On a parlé un peu de cloud tout à l'heure. Là aussi, il faut essayer de faire des choix pas trop mauvais, on va dire, de manière à ce que ce soit pérenne.
Ouais.
Parce que vous pouvez imaginer le plus beau logiciel, si en dessous vous n'avez pas le niveau serveur, le niveau réseau attendu, ça ne marchera pas. Ça marchera mal.
Ouais. Et en tout cas, il faut en profiter pour tout changer, tout harmoniser, faire en sorte que tout soit solide et pérenne.
Oui, c'est ça. Alors après, voilà, ça se fait pas évidemment en claquement de doigts.
Oui, oui. Non, c'est un projet.
Faut avoir une vision pragmatique plus que dogmatique des choses, hein, c'est clair. Mais
j'entends bien que j'ai compris que c'était un projet vraiment sur le long terme, l'urbanisation.
Oui, qui bouge tout le temps.
Enfin, ouais, c'est ça.
C'est ça qui rend intéressant.
Charles, ce sera le mot de la conclusion. Il sera pour vous.
Alors effectivement, nous, encore une fois, en tant qu'éditeurs, alors là, je rebondis exactement sur ce que dit Franck, mais c'est vraiment le quotidien. C'est-à-dire que, en plus, on a de plus en plus de clients, de plus en plus d'utilisateurs, etc. Donc si l'architecture, justement, qu'on met en place, elle n'est pas Enfin, je ne vais pas dire malléable, mais en tout cas, on ne peut pas la faire évoluer facilement. C'est vraiment très compliqué pour un éditeur. C'est-à-dire que, de toute façon, on ne peut pas avoir des utilisateurs à un moment qui disent bah, « je clique sur un bouton, il me faut 3 minutes pour ouvrir ma fenêtre ». Ça, en général, c'est pas bien apprécié. Et donc, nous, à la fois, on passe aussi par des partenaires, hein, chez qui on héberge nos solutions, etc. Donc ça, c'est le quotidien de nos équipes techniques, d'avoir effectivement l'infrastructure qui suit la demande de nos clients, qui suit l'évolution du parc en termes, encore une fois, de nombre d'utilisateurs, de taille de base de données, d'interface à réaliser. Et voilà, c'est un peu notre valeur ajoutée aujourd'hui, et c'est ce qui nous permet, encore une fois, d'accompagner 300 promoteurs au quotidien.
Ben messieurs, merci beaucoup pour cet échange. L'urbanisation, elle est sans fin. Notre échange aussi, il aurait pu être sans fin, mais faut bien un jour qu'on le conclue. Merci infiniment, en tout cas, pour toutes vos idées. Xavier Pinault, je rappelle que vous êtes responsable du système d'information du groupe Gambetta. Merci beaucoup pour votre présence. Franck Laudet, directeur des systèmes d'information et du digital chez Atland. Merci beaucoup, Franck. Adrien Chaussinant, vous êtes responsable innovation du réseau Procivis. Merci encore, Adrien. Et Charles Goulet, merci de nous avoir rassemblés, Charles, pour parler d'urbanisation. Vous êtes directeur des ventes de Salvia Développement. Messieurs, je vous souhaite une excellente journée et un très bon Salon CIMI. Merci.
Merci, bonne journée.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solaré IT et Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.